Bonjour à tous, bienvenue dans cette webcast PwC Focus sur un thème important et qui nous semble tout à fait d'actualité dans la situation que nous traversons tous aujourd'hui depuis plusieurs mois. Comment sécuriser la gestion et le pilotage de vos projets technologiques? Je m'appelle Romain Camus, je suis associé en charge de l'animation de nos activités en gestion des risques technologique pour PwC en France, et j'aurai le plaisir de co-animer cette session aujourd'hui de 45 minutes avec vous, en compagnie de Damien Meyer, qui est directeur au sein de nos équipes, et qui nous a rejoint il y a maintenant 2 ans et qui nous vient de PwC Allemagne. Damien, qui connaît très bien le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, a un point de vue très international compte tenu de son expérience et de son parcours. Vous reconnaîtrez très probablement son léger accent. Bonjour Damien.
Bonjour à tous.
Nous avons prévu aujourd'hui 30 minutes de présentation avec le témoignage de Thierry Verbiest, le directeur général de Volkswagen Financial Services en France, et 15 minutes de questions-réponses. Alors, vous pouvez dès à présent poser vos questions au fil de l'eau et ce tout au long de la webcast. Donc, n'hésitez pas, on prendra juste le soin d'y répondre à la fin, mais vous pouvez dès à présent lister vos questions. Alors, je vous propose, en guise d'introduction, de dire quelques mots par rapport au contexte actuel, parce qu'évidemment, il est important de comprendre le sujet dont on va parler dans le contexte. Alors, la crise actuelle liée au Covid-19, avec son caractère inédit, représente bien sûr pour nous tous un défi majeur, sans précédent pour l'ensemble des acteurs économiques, quelle que soit d'ailleurs leur taille, quelle que soit leur industrie, quel que soit leur secteur d'activité. Il est encore évidemment trop tôt aujourd'hui pour connaître et mesurer pleinement les conséquences de cette crise, conséquences qui vont s'étendre sur plusieurs mois. Je dirais que c'est peut-être la seule certitude qu'on a aujourd'hui. Toutes les entreprises ont dû aujourd'hui répondre vigoureusement à cette crise en faisant notamment évoluer leurs orientations stratégiques, des priorités budgétaires révisées, de nouvelles contraintes financières et aussi un redéploiement de la charge de travail qui les ont contraints à ajuster leur portefeuille de projets, y compris d'ailleurs sur la dimension technologique, hein, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Certains projets dans ce contexte ont été abandonnés, d'autres ont été suspendus ou adaptés, d'autres enfin, à la faveur de la crise, se sont retrouvés accélérés. Dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est que la crise accélère les programmes de transformation d'une manière ou d'une autre et elle bouleverse l'organisation des équipes en place. Avec notamment une gestion à distance des projets, ce qui est complètement inédit. Et les entreprises dans ce contexte-là et cette situation ont plus que jamais besoin de disposer d'une méthodologie agile et structurée qui leur permette en pratique de faire 3 choses. Un, de prendre les bonnes décisions avec les bons outils sur leur portefeuille de projet. Deux, de comprendre et d'identifier les nouveaux risques technologiques qui sont révélés par la crise, et on y reviendra. Et trois, de tirer les leçons de la situation actuelle pour adapter la gouvernance et le pilotage des projets. Alors, vous le voyez sur ce slide, on a mis une statistique et ces statistiques, elles parlent d'elles-mêmes. 87% des responsables de gestion des risques s'attendent à investir davantage dans les programmes de gestion des risques technologiques et de résilience avec un objectif clair, sécuriser la gestion et le pilotage des projets compte tenu des investissements qu'il représente. Alors, quelques éléments de contexte. Dans le contexte que je viens de vous donner, toutes les entreprises avec qui on parle au quotidien ont lancé, lancent ou vont lancer des projets technologiques pour répondre à différents enjeux. Et ces enjeux peuvent être de tout ordre. Évolution de leur business model, transformation digitale, évidemment réduction des coûts dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, obsolescence de système, mise en place de ERP, migration vers le cloud. Bref, les raisons ne manquent pas et le contexte autour de la crise sanitaire a mis en lumière, en tout cas dans la vision qu'on a, le besoin de bien choisir et de prioriser les décisions d'investissement tout en étant capable d'en mesurer le retour de façon factuelle et objective. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous en parler aujourd'hui et pourquoi le sujet nous paraît important? On vous a mis quelques données de marché sur ce slide parce que les statistiques en fait sont très claires. Je vais donner une statistique qui est connue, hein, près de 2 projets sur 3 n'atteignent pas leurs objectifs. Donc ça veut dire soit que le projet a été annulé, soit le projet a été reporté, soit simplement le projet subit un dérapage en termes de calendrier ou de suivi budgétaire. 59%, c'est ce qu'on vous met à gauche ici, 59% des organisations ne parviennent pas à réaliser la valeur attendue de leurs investissements en transformation. Et pourtant, 86% des CEO sont convaincus que la technologie va transformer leur business dans les 5 prochaines années. Il y a donc une contradiction entre la technologie qui est perçue comme un levier de transformation et la capacité à réussir les projets de transformation technologique. Ce constat, on le fait presque tous les jours chez nos clients en France. Sur ce slide, on a choisi de vous citer des exemples de projets en souffrance ou en échec, et on a pris des exemples publics qui sont parus dans la presse sur les 10 dernières années pour vous permettre de voir, je dirais, les enjeux et les risques, car bon nombre de projets restent malheureusement aujourd'hui pilotés par les délais et par les budgets. Alors, je dirais, il y a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que ça concerne toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, toutes les industries et toutes les tailles d'entreprises. Ça, c'est déjà le premier message. Le deuxième enseignement, comme vous le voyez sur ce slide, c'est que à travers ces projets en souffrance, il y a toujours des risques et différentes natures de risques. C'est ce qu'on essaye de vous illustrer ici. Je vais en citer quelques-uns. Du risque opérationnel, bien sûr. C'est le cas de l'exemple sur ce diaporama d'une entreprise dans le secteur de l'énergie, une entreprise majeure qui a connu des traitements de paye erronés, des factures fournisseurs non traitables et une incapacité à générer un reporting financier sur une période de temps. Un risque financier, c'est le cas d'un acteur majeur de la logistique en Europe avec une perte qui s'est chiffrée en plusieurs millions d'euros liée à l'échec d'implémentation d'un ERP. Et je ne parle pas là des autres enjeux, notamment des enjeux de réputation qui peuvent être des enjeux majeurs vis-à-vis de ses clients, du marché, des actionnaires. Donc, je ne vais pas aller plus dans le détail, je préfère maintenant laisser la parole à Damien qui va vous expliquer les raisons qui expliquent ces différentes situations.
Merci Romain. Alors, si on reste un peu sur les chiffres, on voit bien que 33% des organisations ont déjà annulé un projet en cours pendant les dernières 2 années. Et au-delà, à peu près le même chiffre, 28% des organisations ont déjà constaté ou subi que le projet était un échec. Si on parle des projets en soi, on sait qu'il y a plusieurs types de projets qui sont pris par le délai, par les risques, par les coûts ou les valeurs. Et c'est ce qu'on peut déjà constater, que c'est les projets qui sont pris en compte par les risques ou par les valeurs sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Et souvent, on voit que tous les projets sont pilotés par les délais et par les coûts. Alors, pourquoi les projets échouent et c'est quoi les principaux explications pour ça? C'est ce qu'on a mis sur ces slides. Si on prend la numéro 1, on voit très, très, très souvent que les objectifs pour les projets sont mal définis au démarrage et pas suffisamment alignés avec la stratégie. Et pour vous donner un exemple, ça peut amener dans les cas que les process métiers ne fonctionnent plus comme défini ou attendu. Et évidemment, ça nous emmène à des corrections, à des délais et à des corrections nécessaires et évidemment à des coûts aussi qui dérapent et qui sont supplémentaires. Un deuxième exemple sur ce slide, c'est ce qu'on constate, c'est les business cases sont parfois trop optimistes. Et évidemment, les dirigeants qui prennent des décisions sur les projets, dans ces cadres-là, ils prennent des décisions sur les chiffres qui sont incorrects. Et pour vous donner un exemple, j'ai travaillé avec un client dans le secteur retail qui a mis en place un système ERP. Et après, en fait, la phase de développement, déjà 60% des frais étaient utilisés. Et évidemment, pour la phase derrière le test, le go-live, migration, les coûts ont dérapé le budget et le projet était à la fin beaucoup plus cher que prévu. Un deuxième exemple sur un même type de mission, sur 3 phases qui étaient sur 3 continents dans le monde entier. Après la phase, on a déjà constaté que 90% des frais de déplacement étaient déjà utilisés. Et évidemment, les frais pour la phase 2 et 3 étaient beaucoup plus chers que prévu. Le troisième exemple, c'est les risques du contrôle interne qui est des fois pas pris en compte aux différentes étapes du projet. Et ça aussi, ça peut créer des risques du projet vis-à-vis à du contrôle interne. Et pour donner un autre exemple encore, j'ai travaillé avec un client qui a mis en place du contrôle interne quelques mois plus tard que le Go Live. Et évidemment, ça crée à la fin des risques ou des problématiques au niveau des régulations et aussi des contrôles internes qui couvrent bien les risques pour les process métiers. Un classique, c'est le numéro 4, c'est la communication entre les différentes équipes impliquées n'est pas assez développée. Et ça emmène souvent dans les problématiques qu'une fois le prestataire est parti, tout le savoir-faire aussi est parti. Évidemment, les équipes métiers, ils ont beaucoup plus de nécessaire de temps pour se mettre à jour avec les nouveaux processus et avec les nouveaux logiciels. Le numéro 5, c'est toute la partie gouvernance, que les sponsors, les dirigeants ne sont pas assez impliqués ou informés tout au long du projet. Et également aussi un petit classique dans la gestion de projet, que les messages négatifs arrivent souvent à la fin du projet et beaucoup trop tard pour ajuster et pour prendre ça en compte de la gestion de projet. Numéro 6, la partie profondeur de la documentation des étapes clés. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille dessus aussi beaucoup avec nos clients, qui sur les différentes phases de projet, les cahiers des charges, les spécifications, des tests. Ça prend beaucoup de temps au début, mais c'est très bénéfique à la fin parce que ça donne beaucoup, beaucoup de transparence dans le projet. C'est ce qui va être mis en place, c'est ce qui va être justement envisagé pour le projet. Alors, comment on travaille avec nos clients? C'est ce qui est vraiment important, d'avoir un regard indépendant et factuel sur l'atteinte des objectifs des investissements. On peut faire ça sur plusieurs niveaux. Alors, première, c'est ce qui est important, d'avoir identifié les risques de transformation. Si vous avez un portefeuille sur plusieurs niveaux, il faut regarder les risques au niveau du portefeuille, il faut prendre les risques, regarder les risques dans un niveau de programme et projet. Et au-delà, c'est ce qui est important, de mettre en place une évaluation des contrôles et des risques des transformations pour les différentes étapes de projet, la phase de conception, développement, test, go live, hypercare, qui répond aussi au slide dernier au fait que la stratégie, les objectifs qui sont souvent mal définis au début, et qui sont insuffisamment alignés avec la stratégie, c'est un lien avec ce problématique-là. Dans nos interventions, nous rédigeons aussi des rapports et avec un feedback proactif, régulier et indépendant aux différents niveaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que, pour vous donner un exemple, un responsable finance qui valide une à deux fois dans sa vie professionnelle un budget très élevé pour les transformations et qui est vraiment preneur de cet avis indépendant et au-delà, toute la partie DSI ou manager de projet qui ont l'intention avec les prestataires aussi d'être souvent trop positifs sur l'avancement de la mission. Pour nos analyses aussi, on est capable de faire un benchmark par rapport aux bonnes pratiques et bons standards. On fait ça aussi également avec plusieurs méthodologies. Et je vois qu'il y a une première question qui est arrivée. Oui, la méthodologie qu'on a, ça s'applique à un cycle V et aussi à l'agilité. Mais au-delà aussi avec un certain nombre d'autres méthodologies comme Hybrid ou Scrum, on a plusieurs méthodologies qui s'appliquent à ces niveaux. Pour vous donner un exemple, comme j'avais déjà dit, on parle très souvent sur la profondeur de la documentation et très spécifiquement sur le niveau de détail des concepts, notamment sur la partie test, sur la partie utilisation des nouvelles méthodologies. Et ça, c'est vraiment important. Et si on parle de l'agilité, comme la première question était, l'agilité ne veut pas dire qu'il faut arrêter à documenter. Justement, c'est très important que les user stories, les sprints ou autre chose que vous développez en agilité, c'est très spécifique parce qu'il y a plusieurs développeurs qui travaillent sur cette méthodologie. Avec notre approche, nous sommes capables vraiment d'améliorer et donner une transparence sur l'avancement du projet avec des statuts, avec des livrables qui se basent sur la bonne gestion de projet. Et ça, c'est souvent très, très intéressant pour les sponsors qui, comme j'ai dit sur la slide précédente, sont beaucoup plus impliqués, informés tout au long du projet. Nous avons également aussi dans nos revues de projet des accélérateurs et outils. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure et je passe la parole à Romain pour animer le témoignage.
Merci Damien. Alors effectivement, pour illustrer ce que Damien vient de vous présenter, nous avons choisi de donner la parole à l'un de nos clients et nos clients sur ce type de sujet sont souvent nos meilleurs ambassadeurs et nous avons donc la chance, je vous l'ai dit en introduction, d'avoir Thierry Verbis, directeur général de Volkswagen Financial Services, qui nous fait l'honneur de faire un témoignage sur l'expérience qu'il a pu avoir avec nous, avec nos équipes en France, dans le cadre d'un programme de transformation. Je précise simplement que nous sommes intervenus sur l'une des dimensions de ce programme qui comprend plusieurs projets. Voilà, je vous propose de l'entendre maintenant.
Nous sommes une captive automobile active sur le marché français. Donc, ça veut dire que nous commercialisons des produits de financement, des crédits ou des leasing. Et notre projet de transformation consiste à changer notre système de gestion qui est le cœur de notre métier pour toutes nos lignes de produits. C'est un projet de transformation d'entreprise parce qu'il s'agit en effet de revoir tous nos processus de façon à les adapter à notre nouvel outil. Et c'est l'occasion également de remettre en question nos processus historiques. Ouais. Dans la transformation, un élément clé, c'est que comme nous touchons à la gestion de nos contrats, nous touchons également à tout ce qui traite à la comptabilité. Donc, il y a d'une part la comptabilité de nos produits et d'autre part les interfaces avec nos systèmes comptables qui sont SAP. Au cours du projet, PwC nous a également aidé à structurer le projet. On a beaucoup travaillé sur la stratégie de test notamment. Ils nous ont également apporté une validation des interfaces comptables. D'autre part, PwC est une société qui nous connaît bien, qui connaît bien nos process, mais qui a également une approche très rigoureuse dans son analyse et beaucoup de sérieux. Et ça m'a plu. Donc ici, le périmètre de PwC étant la partie comptable, ce périmètre a été clairement délimité. Une fois qu'on s'était mis d'accord là-dessus, on a eu des échanges très fructueux sur l'analyse des risques, sur les choses à améliorer dans la gestion du projet. On a pu bénéficier également de l'expérience des consultants de PwC qui avaient vu notre futur logiciel fonctionner dans d'autres entreprises, ce qui nous a beaucoup aidés. Et nous avons pu nous reposer vraiment sur un avis constructif de la part des consultants. Les équipes de direction de projet sont également des équipes qui sont orientées assez business. Et la partie comptable leur fait, de manière générale, assez peur parce que cette expertise n'est pas forcément présente dans la direction d'un projet ou d'un programme de cette ampleur qui a une forte orientation business. Alors, impliquer nos équipes comptables à nous, c'est une chose, mais nous avons souhaité éliminer le risque principal d'avoir des interfaces comptables qui ne répercutaient pas ce qu'ils devraient. Et donc là, il a été important pour nous d'avoir un avis externe et c'est pour cela que nous avons fait appel à PwC. Nos équipes ont certainement progressé grâce à cette mission. C'est un projet, un programme de transformation d'une telle ampleur n'est pas un programme qu'on fait chaque année. Donc les équipes n'ont pas forcément l'expérience non plus et donc l'approche de PwC a permis à nos équipes de se poser des questions qu'ils ne se posaient pas. Et d'être certain ou d'avoir un regard sur l'exactitude de leurs travaux qui les a fait grandir. PwC a pour moi clairement rempli sa mission avec succès. Et je les remercie. Ils nous ont beaucoup challengés. Donc à certains moments, ils nous ont posé plus de questions qu'on aurait cru en avoir. Ça nous a sorti de notre zone de confort. Mais après coup, c'est une bonne chose parce que ça nous a permis d'avoir un confort encore plus grand dans ce qu'on a fait et d'être certain que les choses seront pérennes.
Je remercie Thierry Verbis d'avoir joué le jeu. Hein. Donc vous l'avez vu, c'est un enregistrement vidéo parce que dans le contexte de distanciel, on a dû s'adapter et faire cet enregistrement à distance. Donc là aussi, c'était un exercice un peu inédit. Donc merci Thierry. Alors, on a souhaité en complément finalement de ce témoignage sur le site que vous voyez à l'écran, synthétiser les principaux bénéfices que peuvent obtenir les différentes parties prenantes, les différentes fonctions par un regard indépendant et neutre sur l'atteinte des objectifs et des investissements réalisés dans le cadre d'un projet. Alors, je ne vais pas forcément tout citer sur ce slide, hein, ça nous prendrait trop de temps, mais juste peut-être trois fonctions ou trois contributeurs. Je vais commencer par le niveau comité d'audit et board. Le type d'approche qu'on propose leur permet d'avoir une vision indépendante sur les projets, qui permet aux membres des comités d'audit de se concentrer sur les risques les plus critiques. Et ça leur permet aussi de mieux mesurer le retour sur investissement des projets et l'alignement avec les initiatives stratégiques telles qu'elles ont été définies. Deuxième exemple, l'audit interne. Ce type de démarche leur permet de mieux identifier, cartographier les risques liés aux grands programmes et aux grands projets. Ça leur permet aussi de s'assurer de la correcte prise en compte des risques d'audit et des risques des enjeux de sécurité, notamment dès le début des projets et à chaque étape. Et ça leur permet aussi de suivre l'avancement des différentes étapes du projet avec des outils qui sont des outils de mesure indépendants qui permettent notamment de capter les signaux faibles, donc ce qu'on appelle les signaux faibles. Et je vais prendre un troisième exemple de niveau sponsor, donc direction générale, les sponsors métiers ou finances. Ce type de méthodologie leur permet d'avoir une meilleure information pour soutenir leur prise de décision. Donc, par exemple, prioriser les projets, prioriser l'allocation des ressources. Ça leur permet aussi de s'assurer de la création de valeur. Alors, ça, c'est un sujet important. Création de valeur qui est réellement faite dans le cadre de la transformation, au-delà d'une approche un peu classique par les délais, par les coûts et par les risques, et donc de parler de la valeur créée et en particulier ce qu'on appelle la valeur d'usage sur les bénéfices utilisateurs. Et comme l'a dit Damien, en pratique, un directeur financier, et c'est ce qu'a dit Thierry aussi, hein, ne valide que une à deux fois dans sa vie professionnelle des grands programmes ou des grands projets technologiques. Donc, on peut comprendre que de façon générale, il soit preneur d'un avis externe, indépendant, objectif et factuel, pour plusieurs raisons. Quand il s'agit déjà de bien comprendre et analyser les raisons de dépassement systématique de calendrier, de planning et de budget, quand il s'agit aussi, et ça c'est toujours une difficulté qu'on voit, de gérer des injonctions contradictoires en provenance des métiers, de l'IT et puis des partenaires externes, notamment les intégrateurs par exemple, ou quand il s'agit tout simplement de disposer d'éléments factuels qui permettent de prendre des décisions éclairées. Voilà, je laisse maintenant peut-être la parole à Damien pour vous donner une vision des outils finalement qu'on utilise dans ce cadre-là.
Alors pour qu'est-ce qu'on fait tout au début de notre rue portefeuille IT? Dans une première étape de notre revue, on regarde, on prend connaissance de plusieurs projets qui sont en cours et au-delà, on regarde aussi tous les projets qui sont envisagés dans les prochaines années. Et au-delà, on ajoute aussi toute la partie stratégie de nos clients. Alors, ça veut dire qu'on prend connaissance de la stratégie, on fait un lien aussi avec les projets. Et dans ce cadre-là, on regarde plusieurs critères. On regarde les critères qui sont définis par les entreprises Au-delà, on prend les critères des bonnes pratiques et des critères de l'actualité. Et si on parle de l'actualité, je crois que tout le monde, ce printemps a un peu souffert par la crise sanitaire, pour renforcer toute la partie infrastructure, pour mettre en place la partie travail à distance pour les collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qui était peut-être pas attendu et qui a posé quand même pas mal des problématiques tout au début. Une fois qu'on a pris connaissance de tout le projet, on remet à jour le portefeuille projet pour évaluer les projets, et ça permettra aussi aux dirigeants de réfléchir sur le portefeuille IT. Alors peut-être il y a quelques projets qui sont à accélérer, quelques projets qui sont à ralentir ou même à suspendre. Et ça donne un avis global, structuré sur la gestion de portefeuille IT. Pour aller plus loin sur cette démarche, l'étape 3, on crée des scénarios pour se projeter dans le temps, pour analyser plusieurs cas, circonstances qui peuvent arriver et qui sont basées sur les impacts, par exemple sur les ressources, sur les bénéfices, sur le chemin critique des projets, des différents projets, et aussi la dépendance entre les projets qui existent. Et avec ces scénarios, en fait, sur la phase 3, on est capable d'aider à optimiser les projets clés dans plusieurs circonstances et préparer vraiment les responsables à prendre les décisions structurées dans les plusieurs éventualités qui peuvent arriver dans les prochaines années. Et justement, pour infinitif, décider quels projets sont à accélérer, à ralentir ou à suspendre dans le prochain temps qui va venir. Du coup, pour la partie outils, méthodologie et équipes, c'est ce qui est très important. Nous avons formé des équipes qui connaissent très bien les différentes méthodologies de gestion de projet et y compris les risques sur plusieurs couches de la partie IT. Alors, on a des experts sur la partie infrastructure, on a des experts sur la partie base de données et applications. Et en connaissant quand même une ensemble de AP sur le marché grâce à nos interventions, alors les gros classiques SAP, ERP, SAP, Oracle, Dynamics et autres, bien sûr. On connaît différentes solutions, différents types d'organisations avec des centres partagés, avec des centres de compétences. On connaît différentes industries, tailles, voilà, y compris les nouvelles technologies comme RPA, Move to Cloud, etc. C'est ce qui est très important et encore plus important, à mon avis, par rapport à des outils accélérateurs, c'est la séniorité des équipes. Parce que quand on arrive avec la méthodologie, il faut qu'on est capable vraiment d'appliquer ces résultats à vos organisations et à la méthodologie, vraiment qu'on a une seniority qui est capable d'adapter les résultats à besoin de nos clients. Si je parle sur les accélérateurs, alors on a développé une Global Transformation Assurance Framework dans un groupe de travail de PwC au niveau global dont je suis connecté. Et ce groupe de travail ou ce framework vous permet d'évaluer systématiquement les activités de gestion de projet sur plusieurs niveaux. Et ça prend en compte les différentes activités de gestion de projet qui sont importantes. Et au-delà aussi, évaluer les risques tout au long du projet, y compris les différentes méthodologies de gestion de projet. Si je prends le deuxième volet, en fait, on se base sur 12 éléments de bonne gestion de projet. Ces 12 éléments font partie vraiment de toute la gestion de projet, commençant avec les responsables, avec la partie périmètre, la partie fournisseur, sa partie coût, bénéfice, et un grand volet sur toute la partie qualité, changement. Et sur le sous-volet qualité, vous retrouvez la partie en fait, dont j'ai déjà parlé, conception, test, gestion des changements et autres. Et sur ce 12 éléments, en fait, on a des sous-volets avec des critères et des risques définis qui sont, de notre point de vue PwC global, la manière de bien gérer les projets C'est très intéressant d'y discuter. Pour avoir une vision sur la maturité de votre gestion de projet, on a un outil qui s'appelle Project Maturity Assessment, qui est en fait une base de données qui fait partie également de ce groupe de travail, qui ont saisi à peu près 1000 projets assez récents du réseau PLESC et qui sont sur la base des critères entre différents niveaux et qui permet aussi de faire une benchmark entre votre taille d'industrie, la gestion de projet, l'industrie, qui nous donne aussi une vision sur les risques et des activités pour répondre à ces risques sur votre gestion de projet. Et pour finir, je donne la parole à Romain pour passer aux questions et réponses.
Alors, merci Damien. Donc, je vous propose effectivement de passer aux questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Alors, il y a quelques questions que j'ai vues arriver. Donc, une première que je vais t'adresser d'ailleurs, Damien. Hein, quels sont les facteurs différenciants de cette approche par rapport aux autres acteurs ou cabinets sur la place?
Voilà. À mon avis, c'est toute la partie seniorité des équipes, des accepteurs et outils qui sont adaptés à vos besoins. C'est la partie aussi d'être capable d'emmener les experts sur les différentes couches IT avec l'infrastructure, métier, techno, risque contre l'interne, cyber, etc.
OK. OK. Une autre question qui est arrivée. Quelles sont les méthodes? Alors, je raccourcis un peu la question, mais quelles sont les méthodes utilisées pour suivre et monitorer la création de valeur des projets? Donc ça, c'est une bonne question. C'est pas une question facile. Je vais la prendre, si tu veux bien, Damien. La création de valeur, c'est un point important. Vous savez qu'il y a plusieurs types de pilotage de projet, hein, les pilotages classiques par les délais, par les coûts, par les risques et par la valeur. Souvent, ce qu'on appelle le pilotage par la valeur, il n'est pas du ressort immédiat du chef de projet ou du responsable de projet qui, lui, dans sa vision, est plutôt orienté build et donc construction de la solution et pas forcément sur le run, qui est vraiment, je dirais, la partie exploitation de l'outil. Donc, si on regarde ce sujet de valeur, il y a classiquement deux axes. Il y a la valeur économique et la valeur d'usage. La valeur économique, elle dépend principalement du business case. Et le business case, nous, ce qu'on cherche à vérifier, c'est qu'il ait bien été défini au démarrage du projet, qu'il ait été validé à tous les niveaux de l'organisation, hein, du sponsor au business user qui va être l'utilisateur du système, et que derrière ce big case, ce business case, il y a bien des indicateurs de suivi qui soient mesurables, ce qu'on appelle des indicateurs SMART, donc qui soient capables d'être mesurables, atteignables, etc. Et ça, c'est un moyen. Si ces indicateurs sont définis dès le départ et qui sont suivis, monitorés, parce que souvent, en fait, ils sont soit pas définis, soit ils sont définis et pas suivis. C'est quand même ce qu'on observe de façon générale. Donc, sur la valeur économique, si ces indicateurs sont définis, validés au bon niveau, suivis dans le temps, c'est déjà un bon outil de monitoring sur la valeur économique. Et il y a plein, et donc là on parle souvent finalement de valeur en euros, mais pas que. Ça peut être par exemple une qualité de service, une disponibilité de système. Enfin, il y a plein d'indicateurs possibles. Donc ça, c'est la valeur économique. Et sur la valeur d'usage en tant que telle, la valeur d'usage, c'est un vrai. Donc là, on est plutôt finalement sur l'expérience utilisateur. La valeur d'usage, ce qu'on encourage, c'est et ce qu'on voit en général maintenant dans les projets, c'est le fait de faire un POC, un proof of concept, qui vient valider, je dirais, le d'un point de vue utilisateur, la qualité des fonctionnels de l'outil et l'ergonomie de ce qui va être proposé. Donc, on encourage vraiment cette validation de la perception utilisateur, donc la valeur d'usage, et ça peut se mesurer par plein de moyens, notamment la mesure autour de l'accroissement de la productivité, le temps gagné dans le parcours client. Bref, il y a plein d'axes. Enfin, on pourrait y passer du temps sur cette question, mais je dirais que donc pour mesurer, si je reprends la question sur la création de valeur, il y a la valeur économique qui, pour moi, dépend du business case et de la façon avec laquelle les indicateurs ont été définis et suivis dans le projet. Et il y a ensuite la valeur d'usage qui est plutôt l'expérience utilisateur. Et là aussi, ça se fait dès l'amont du projet par un proof of concept et par le fait de prendre en compte finalement les exigences utilisateurs dès le début du projet. Voilà. Alors, je vois une autre question. Comment et à quel moment vous insérez-vous dans le dispositif de gestion de projet? Peut-être, Damien, je peux te laisser cette question si tu veux.
Oui, je veux bien, merci. Alors, quand nous, on s'intègre dans les projets, on essaie de pas trop gêner le développement du projet en soi. Ça, c'est un premier message important. Si on commence à travailler dans le projet, il faut que la documentation ou le projet doive être se développer un certain minima, la documentation d'avoir atteint un certain niveau de maturité, mais il faut aussi qu'on s'intègre dans un moment où ça a du sens dans une manière que les remarques qu'on a, ils peuvent être pris en compte par les équipes projet. Alors normalement, c'est si on prend une méthodologie classique, c'est où une première version draft sur un concept qui est déjà rédigé. C'est à ce moment-là où on regarde et en même temps, par exemple, que le métier ou un petit peu après pour ajouter les questions qui sont adaptées et pour ajouter aussi ou donner nos expériences sur la gestion de projet qui peut être pris en compte par les équipes projet. La partie agilité, ça peut être au moment où il y a un backlog des sprints qui a défini à ce moment-là pour qu'on regarde le niveau de détail pour donner un retour. Est-ce que de notre point de vue, un développeur est capable de développer ce sprint ou plusieurs développeurs après ce niveau de détail qui était rédigé? Et c'est à ce moment-là, et ça s'applique aussi sur les phases de test, le bascule du support et autres, vraiment à ces moments-là critiques où on peut donner où ça a vraiment du sens quand on intervient.
Merci. Tu avais terminé, Damien? Merci. Une autre question. Alors, elle est un peu longue, donc je vais essayer je vais vous la donner comme ça. Donc, la sécurisation des projets passe par la sécurisation des budgets pendant les phases de développement, de déploiement, mais aussi d'accompagnement RH de la transformation occasionnée et du budget nécessaire au run. Oui. Ces deux derniers postes font souvent l'objet de remises en cause lorsque des forecasts de type cut budgétaire sont à appliquer. Comment défendre ces postes, c'est-à-dire comment chiffrer les risques pris? Voilà une autre bonne question. Tu veux commencer, Damien?
Je veux bien. Alors, pour moi, je comprends qu'il y a un volet coût, il y a un volet valeur. Le volet coût, c'est ce qui est vraiment important qu'au début d'un démarrage projet, il y a une vision très détaillée, très claire. Sur la partie coût, sur la totalité des départements qui sont impactés. Ce plan, les coûts doivent être très détaillés et vraiment soutenus par les contrats, les appels d'offres, vraiment des détails par les différents métiers et également toute la partie les différents responsables métiers doivent être impliqués dans un revue indépendant sur ce plan. Alors, si on prend la partie RH ou la partie IT, c'est très important que dès le début, ils sont impactés et dès le début, indépendamment, les différents départements sont impliqués. Et cette surveillance des coûts doivent être tout au long d'un projet. Alors, s'il y a des changements, C'est également très important que tous les départements sont inclus dans ce revue des coûts et que tous les impacts possibles qui ont les changements sont pris en compte. Et peut-être, Romain, si tu veux donner quelques mots
sur ce niveau-là. Moi, je peux peut-être compléter la réponse pour indiquer que quand on est face à des, ça arrive fréquemment, surtout en ce moment, dans des phases de réduction budgétaire, une bonne façon de défendre finalement les coûts qui restent nécessaires et qui vont arriver dans le projet, notamment pour le RUN ou pour les sujets de conduite du changement ou autres. Et on a des outils pour ça, c'est de faire une analyse entre les économies effectivement qui seraient réalisées, là, elles sont faciles à chiffrer en euros par le fait de faire ce cut budgétaire versus ce qu'on appelle la revue des valeurs à risque. Et dans les valeurs à risque, il y a beaucoup de choses à mesurer. Donc, nous, ce qu'on encourage, c'est de bien mesurer les différentes composantes de ces valeurs à risque pour être capable de challenger l'économie qui est indiquée en face. Et dans les valeurs à risque, par exemple, il y a quel serait, je dirais, le nombre d'incidents qu'on pourrait imaginer avoir si on faisait ce cut budgétaire, quel serait le risque sur le montée en compétences des équipes si on venait cutter les investissements dans les aspects d'accompagnement au changement, de conduite du changement sur les formations, par exemple. Un sujet important aussi, c'est dans les valeurs à risque, c'est quelle pourrait être la perception du marché, la perception des clients, la perception des actionnaires. Et donc, on arrive sur des enjeux de risque de réputation, d'image de marque. Donc, on essaye d'avoir ce type de raisonnement très structuré. Donc, on a là des outils qui permettent de le faire pour en face d'une réduction budgétaire, mettre des impacts potentiels. Donc, de faire vraiment la balance d'euros en euros ou d'euros avec des risques, et notamment des risques de qualité, des risques de réputation, des risques d'image, pour apporter des éléments factuels et objectifs dans la discussion. Donc, c'est comme ça qu'on l'adresse. Mais là aussi, on pourrait y passer du temps. Et je vois que l'heure tourne. Il nous reste 3 minutes. Il y a une question qu'on peut peut-être prendre encore, Damien, sur alors, c'est une question sur le budget, le dimensionnement de ce type d'approche ou de démarche. Je ne sais pas si tu veux, sinon je peux donner des éléments de réponse et puis tu peux compléter peut-être, Damien. Déjà, je ne vais peut-être pas satisfaire tout le monde, mais il n'y a pas de réponse unique sur un sujet comme celui-ci, et ça, je pense que vous le comprendrez. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà du moment auquel ce type de démarche est mis en place ou auquel on nous sollicite. Ça peut être tout au début du projet, mais en général, ça vient un peu plus tard et quand les projets commencent à être en souffrance ou quand on commence à sentir qu'il y a des sujets de dépassement. Donc, ça dépend déjà de ça. Ça dépend ensuite de la complexité du projet. Si c'est un projet sur un territoire, cross-territoire, ça dépend de la phase du projet sur laquelle on intervient. Donc, j'ai pas de bonne réponse, mais ça dépend de beaucoup de choses. Et évidemment, c'est une analyse qui est du cas par cas, à faire projet par projet, et on n'a pas de statistiques très claires. La seule chose peut-être que je peux dire, et c'est ce qu'on a l'habitude de dire quand on échange avec nos prospects ou nos clients, c'est que en général, le budget qu'il y a à prévoir sur un sujet de ce type-là, sur la sécurisation des projets ou des programmes, il se chiffre en général entre 5 et 10%, si je devais donner un chiffre, du total du coût d'un budget ou d'un programme. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur que je peux donner, en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas, Damien, si tu veux compléter.
Peut-être pour compléter une dernière pensée à ça, c'est que les 5 à 10%, c'est si on regarde les 12 éléments vraiment de bonne gestion de projet. Après, si on veut faire juste un focus sur un élément, évidemment, c'est faisable et on peut également de juste faire un focus sur un des critères ou un des questions qui se posent.
Ok, merci Damien. Bah, écoute, il est 59, donc juste peut-être en conclusion, je voulais avec Damien vous remercier à tous d'avoir participé à cette webcast. Vous recevrez très prochainement le lien vers le podcast. N'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous avez nos coordonnées sur ce slide. Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information. Et je précise juste que vous allez voir apparaître dans quelques instants un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur la droite de votre écran. Donc, je vous remercie par avance si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre, ça nous aide beaucoup. Voilà, je vous remercie, il est 10h, je vous propose d'en rester là. On vous remercie pour votre attention, on vous souhaite une excellente journée, à très bientôt et puis n'hésitez pas à nous contacter. Merci.